Salut, bienvenue sur Radio Chad. On est le mardi 12 mars 2024 et ce soir c'est une émission spéciale éducation en fait comme tous les mardis. Et d'habitude, alors les mardis on a des séries. C'est-à-dire qu'en fait, on change au gré de nos envies. Et en fait, on avait commencé avec une série, donc avec Nicolas qui devrait pas tarder à arriver bientôt. On avait commencé avec une série sur la sécurité, donc la sécurité des fonds, comment il faut faire pour protéger ces cryptos, etc. L'hygiène numérique, en fait, c'était ça le thème que je cherchais. Et ensuite, on a basculé sur l'intelligence artificielle, qui était déjà un thème du mardi avant qu'on fasse ce duo avec Nicolas. On a fait quelques semaines sur l'IA, on a parlé des outils, etc. Puis la semaine dernière, on a fait une soirée débat. Et ce soir, en fait, j'ai bon, il y a quelques temps, il y a Ferdi qui est ici présent, qui m'a parlé de son projet. Et je trouvais ça super cool. Et comme il fait un lancement jeudi, bah, j'ai proposé à Nicolas qu'on fasse l'émission. Sur le thème de la création de projets. Donc voilà, c'est ça le sujet de ce soir, c'est la création de projets. Et je suis très content de te recevoir, Ferdi, du coup, pour parler de ça. Ça va?
Salut, ça va et toi?
Bah, ça va super. Je suis arrivé un peu à la rage dans l'émission, mais c'est ça. Et puis Nicolas, il devrait arriver. Alors Nicolas, en fait, bah, comme toutes les semaines, il a une heure de. Il fait une réunion avec les élèves de la Blockchain Business School. Et donc, il n'arrive pas forcément à 11h pile, à 10h pile, pardon. Il arrive des fois un petit peu après. Ouais, c'est ça. Mais on va quand même en parler un petit peu. Alors, du coup, ouais, c'est ça. Je suis très content de te recevoir parce qu'on a essayé de se faire un call pour que tu me montres en détail le truc et tout. Et à chaque fois, c'est compliqué. Ouais, ma vie est vraiment. Et le pire, c'est que c'est même pas que j'ai un emploi du temps de ministre, mais c'est que bon, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Mais en plus de ça, je vis un peu bizarrement, surtout en ce moment-là. Je fais des insomnies et tout, donc je fais des.
T'es pas sur TradingView toutes les nuits par hasard?
C'est quoi?
T'es pas sur TradingView toutes les nuits par hasard?
Non, mais le pire, c'est que oui, mais je trade pas. J'ai tradé un peu en plus le week-end dernier. J'avais joué comment dire Floki. Je voyais la candle qui a fait x10. J'ai fait comme genre ok, ça se short. Et en fait ouais, j'ai fait un petit peu de sous, mais vraiment pas grand chose. Mais en fait, c'est n'importe quoi ce marché. C'est absolument n'importe quoi. Genre, le truc, ça va dans tous les sens. Ça n'a aucune, il n'y a aucune règle spécifique, en fait. C'est
Ouais, surtout avec les shitcoins.
ouais, c'est fou. Et voilà, c'est ça. Mais sinon, non, je suis pas trop. Je regarde quand même, tu vois. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, je sais pas. Je sais pas. Je dors mal la nuit. Et du coup, je dors un peu la journée. Je dors un peu le matin, le soir. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc c'est ça. Et alors du coup tu sors. Alors salut ceux qui sont là. Salut Quarl. Salut RH. Et salut Awen. Avec Awen, je sais pas si c'est le drapeau belge, mais en tout cas la musique qu'on venait d'entendre en intro, c'est un artiste belge. Voilà. Ah non, je crois qu'il est hollandais en plus. Bon, tant pis. Donc t'as créé. Bah, est-ce que tu peux Ferdi te présenter du coup et puis. Présenter le projet, genre comment t'es arrivé avec ce truc et tout.
Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ferdinand, je suis développeur blockchain depuis maintenant 3-4 ans chez Tezos et je suis aussi expert dev chez Chainlink. Et à côté, bah, avec un pote à moi, on a développé Subs que je vais présenter aujourd'hui. Subs, c'est quoi? C'est comment dire? On en parlait justement avec un pote tout à l'heure. Genre, toi, tu l'as défini comme un Patreon de la crypto. Alors que nous, de base, on ne voyait pas le truc comme ça, tu vois. Au début, l'objectif, c'était juste de créer une base, une surcouche sur les blockchains où on peut faire des transactions récurrentes. Tu sais, avec la crypto, tu peux pas faire des paiements récurrents. Parce que
Ah oui,
bah, t'es
genre un
destiné, ta
abonnement.
transaction, t'es l'owner de tes fonds, donc t'es obligé de faire tout à la mano à chaque fois. Bah, avec les tokens, c'est possible, mais il y a encore un risque de sécurité, ça on va en parler plus tard. Bon, Subs, c'est quoi? C'est juste une surcouche, un protocole qui permet de faire paiement récurrent sur la blockchain. Bah, paiement récurrent, bah, qui dit paiement récurrent, on peut penser à abonnement, potentiellement paiement de produits en plusieurs fois, ou monétisation de contenu par plein de moyens différents. Donc, ouais, je peux le définir comme ça. Et tu vois, par exemple, tu l'as défini comme un Patreon de la crypto. On est en contact avec un client, par exemple, que lui, pour lui, bah, c'est le Shrek de la crypto. Et un autre que pour lui, bah, c'est, je sais pas si tu connais Klarna. C'est un peu un service qui permet de payer des produits en plusieurs fois. Je pense qu'il marche avec pas mal de services Amazon ou quoi. Donc, ça, c'est
Ok.
juste un protocole qui permet de faire plein de paiements récurrents avec des cryptos, quoi. Et ça peut marcher avec n'importe quelle crypto. Et c'est faisable en no-code. N'importe qui peut le mettre en place, en 1 minute, s'il le veut. Donc, c'est à peu près ça. Si.
Ok. Bon, c'est aussi simple que ça. Il y avait Oh là là TV qui voulait dire quelque chose. Salut là là.
Je voulais dire quelque chose, mais j'écoute par contre ce que vous dites.
Ok, d'accord.
Ça m'intéresse. Voilà.
Ok, bah, bienvenue à toi. Et bah, du coup, c'est ça. Alors, pour le. Oui, moi, j'ai vu ça comme un Patreon crypto, mais c'est parce que, en vrai, je pense que c'est juste parce que tu m'avais abordé sur le sujet
Ouais, j'étais
avec
abasifié
cet angle-là.
sur ce coin-là.
Ouais, c'est ça. Et en gros, je suis resté bloqué dessus. Mais c'est vrai, en gros, en fait, tu peux faire n'importe quel type de paiement récurrent. En fait, c'est ça la formule de base, enfin, le concept, quoi. Et en gros, moi, ça m'a vraiment attiré parce que c'est ça. J'utilise bon, un Patreon qui n'est pas très populaire, je t'avouerai. J'utilise un compte Patreon pour les poser pour éventuellement ceux qui veulent participer, aider, etc. Et en gros, c'est vrai que c'est pas quand tu es dans les cryptos, c'est pas ouf comme proposition parce que bah, tu es obligé de payer par carte, etc. Donc ça reste, tu demandes aux gens de contribuer avec des outils du vieux monde pour.
Voilà.
Voilà, pour une émission qui se veut un peu plus avant-gardiste que ça. Et donc, du coup, là, tu as proposé un truc qui est bah, crypto, full. Et je trouve ça super cool. Et en plus de ça, alors, ouais, bah, je t'avais déjà posé la question en antenne, mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Mais moi, je n'avais pas l'impression que ça existait tout simplement dans les cryptos. J'ai jamais entendu parler de paiement récurrent en crypto. Et l'idée est folle, en fait. Je trouve ça trop cool. Mais peut-être que genre, ça existait. Alors, il me semble que ça, y a des concurrents. Enfin, ça existe déjà, en fait,
Alors,
un peu.
ça existe, mais c'est pas du tout le même modèle. C'est-à-dire que il existe par exemple un protocole qui s'appelle Superflute, mais c'est pas du tout le même paiement. Ils essaient de faire des abonnements en chain, mais l'utilisateur, il peut pas payer. Je m'abonne, je paye tout le mois, bah j'ai pas besoin de venir payer tout le temps, quoi. Eux, ce qu'ils font, c'est tu transformes tes tokens. Bah, imaginons que tu veux payer un abonnement de 10 $ sur 12 mois, bah tu transformes les 120 en un token Superflute. Et bah, tu le déposes dans le protocole et le protocole va le prélever chaque seconde qui va aller donner au créateur, quoi. Donc après, il y a aussi d'autres services qui essaient de faire ça, mais qui marchent par NFT. C'est-à-dire que...
Attends, je vais virer
Alors, vous
là.
m'écoutez? Il y a Oh là là TV qui était en train de parler. Oh.
Ouais, non, mais je vais l'enlever parce qu'il fait du bruit pour rien. Et c'est pas trop. Voilà. C'est bon, tu peux y aller.
Ouais, je disais, ouais, super fluide, tu dois transformer tes tokens en un token fluide. Ils appellent ça les tokens fluides pour pouvoir faire de l'abonnement avec. Et ensuite, il y a un lock protocol qui fait un peu les abonnements, mais un peu avec les NFT. Mais c'est pas récurrent. Si, même si c'est récurrent, bah, l'utilisateur doit venir payer tout le temps. C'est pas vraiment de l'abonnement comme dans le Web2. Et après, il existe d'autres services aussi qui permettent de faire ça, mais soit. T'es obligé de déposer tes fonds dans un smart contract, soit bah tu es obligé de tout payer direct, quoi. Bah, ça, c'est pas du récurrent, tu vois. Donc nous,
Ouais.
ce qu'on a fait, bah, c'est juste d'imaginer un protocole qui permettrait de payer, bah, de manière récurrente. C'est-à-dire tu t'abonnes et tous les mois, tous les X périodes définies par le créateur, bah on te prélève. Aussi simple que ça, exactement comme les abonnements dans le Web 2, bah, sauf que ça marche avec les cryptos, avec les protocoles blockchain, quoi.
Et comment ça fonctionne techniquement pour en fait T'es pas à mettre le montant total d'une année ou de plusieurs années ou de machin, comment ça fonctionne?
Alors, on marche par approval pour ceux qui s'y connaissent un peu niveau tech ici. En fait, les tokens ERC 20, quand je parle de tokens ERC 20, c'est vraiment tous les tokens qui sont sur des blockchains d'infrastructure comme Ethereum, Polygon, Avalanche ou Solana ou autres. Ils ont des tokens ERC 20 qui ont des fonctions d'approval, c'est-à-dire pour dire OK, moi j'ai mes fonds, je donne, j'approuve, je donne accès à X pour me prélever tant de montants sur mon wallet. Et ça, cette opération-là, elle peut se faire même si tu n'as pas les fonds. Genre, même si tu as 15 USDT dans ton wallet, tu peux approuver pour 1 million ou 1 milliard de USDT. Ce n'est pas un transfert de fonds. Et quand tu approuves, bah, l'opérateur à qui tu as approuvé, bah, lui, il a le droit de venir te prélever tes tokens. Donc, dans le cas de Subs, le créateur vient. Si je prends ton exemple, par exemple, bah, tu viens sur Subs, tu crées une application, tu dis OK, moi je vais accepter de l'USDT, de l'USDC ou du DAI ou je sais pas n'importe quel token sur la blockchain par exemple. Et l'utilisateur, quand il va venir, bah, il va simplement approuver ses tokens au protocole. Imaginons, c'est un abonnement à 10 euros, 10 USDT par mois sur 12 mois. L'utilisateur, il va venir. Il va juste approuver ses 10 USDT sur 12 mois, donc ça fait 120. Il approuve 120, mais il n'a pas besoin d'avoir les 120 dans son wallet. Il a juste besoin d'avoir les 10 USDT pour commencer. Donc il approuve, il paie le premier et il a son abonnement. Et à la fin de chaque mois, bah, si tu commences le premier, bah, au 31, bah, on débite l'utilisateur. Le protocole va débiter l'utilisateur parce que l'utilisateur ne fait pas l'approuve pour un utilisateur, ce n'est pas pour nous, c'est sur le protocole. Et oui, ça marche comme ça. Je ne sais pas si j'ai été assez clair.
Ouais. Alors, peut-être que si éventuellement un point d'incompréhension, c'est genre, mais moi, ça, je le sais déjà parce que on a déjà parlé avant, mais en gros, comme le contrat ne prélève pas l'argent dans sa totalité au moment où tu t'approuves, mais que tu lui donnes quand même l'approval, c'est-à-dire que quand même tu lui donnes l'accès pour un montant donné. Vous proposez plusieurs durées comme ça. En gros, c'est pour laisser à l'utilisateur
Ouais, exactement. On laisse à l'utilisateur le choix de choisir le nombre de mois pour lequel il veut approuver. Et on conseille aussi au créateur de faire des trucs en une fois. Tu sais, il y a des utilisateurs qui se disent, bah, l'approval sur un protocole, c'est pas trop safe. Moi, je veux pas faire ça. Bah, tu peux aussi payer tout en une fois, quoi. Donc, le truc est vraiment flexible. Genre, imaginons si je reprends l'exemple de 10 USDT sur 12 mois, tu peux venir. Bah, si le créateur a créé son application et Ah, il y a un truc que j'ai pas mentionné. Quand le créateur vient créer son application, il donne, au fait, il dit, OK, moi je veux créer une application, mais je donne un nombre minimum de mois auquel l'utilisateur doit approuver avant de s'abonner à mon application. Donc, toi, si tu viens sur le protocole, par exemple, tu peux dire, OK, je crée mon application, l'utilisateur qui veut s'abonner, il doit approuver minimum 6 mois. Donc, nous, ce qu'on fait, si l'utilisateur vient s'abonner sur ton application, il est obligé de choisir à partir de 6 mois. Et c'est flexible, genre, il choisit le nombre de mois qu'il veut, il approuve pour ce nombre de mois. Et s'il ne veut pas, genre, au niveau, s'il voit que c'est risqué ou il a peur, bah, il peut aussi tout payer en une fois, quoi.
Ou même de toute façon, c'est déjà une question de, tu sais, pour l'utilisateur, si il n'a pas confiance au contrat, il se dit OK, subs, moi je connais pas, etc. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec tout cet argent. Donc en gros, même si le mec il veut s'abonner pour toute sa vie à un service, il va juste dire je vais le faire pour 6 mois, je vais approuver pour 6 mois et on verra ensuite.
Ouais,
On verra ensuite.
exactement.
Et s'il a un peu
Et
plus confiance, il va
il n'a
peut-être
pas
mettre
besoin
deux
d'avoir
ans.
tous les fonds dans sa wallet. Un
Ouais.
truc en plus, il peut juste avoir un wallet d'abonnement où, s'il veut, s'il n'est pas sûr, bah, il envoie les fonds, bah, tous les X périodes, quoi.
Et le truc, c'est qu'il peut révoquer à tout moment.
Exactement. C'est open à tout le monde. Tu t'abonnes à tout moment, tu révoques à tout moment. Et c'est totalement libre. À la fin, si t'as plus l'approval, bah, nous, quand on va essayer de te débiter, on voit que t'as plus les fonds, bah, on désactive ton abonnement, quoi. Le protocole
Ouais.
désactive ton abonnement, parce que si je dis nous, bah, c'est le protocole, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. En parlant de révoquer, c'est un truc que je connaissais pas vraiment. Je connaissais le concept de ça, mais genre, je savais pas que c'était possible manuellement. Tu vois, genre, je savais pas trop avec MetaMask. Mais depuis que j'ai téléchargé Rabi Wallet, c'est de la bombe. Je sais pas si tu connais.
Ouais, je connais très bien. Ils ont ce
Et
truc en plus où tu as juste un bouton à cliquer pour
ah ouais,
aller.
c'est fou. Il me l'a donné, il me l'a montré, ça me l'a montré à un moment, je n'avais pas demandé, puis ça m'est arrivé sur la page. Et le truc, l'application m'a dit, genre, vous avez des trucs à prouver justement sur toutes sortes de smart contracts, il faudrait les révoquer. C'est plus sécurité. C'est plus sécuritaire. Et je ne l'ai même pas fait parce que je me suis dit, ouais, mais je ne sais pas, peut-être que. Mais effectivement, tu as là une page carrément avec tous les trucs, auxquels tu as donné ton accès. Et tu peux révoquer un par un. Par contre, ça coûte des frais de transaction, si j'ai bien compris.
Ouais, parce que si tu approuves, c'est une transaction que tu fais pour donner accès. Et si tu veux revoke, c'est une opération d'approuve, mais de zéro. Bah, imaginons, si tu veux approuve pour t'abonner, bah, tu approuves bah, 120, par exemple. Bah, le revoke, c'est juste une opération d'approuve, mais avec zéro token, quoi.
Ok, ouais.
C'est ça un peu le revoke. Il n'y a pas une fonction revoke dans les tokens ERC20. C'est juste la fonction approve, mais avec un montant de zéro. Du coup, bah, la personne à qui tu as approuvé, on appelle ça un peu dans le milieu une allowance. Genre, en français, on peut dire autorisation, si on peut le dire comme ça. Bah, tu mets l'autorisation à 120, c'est un approval. Tu remets l'autorisation à zéro, c'est un revoke.
Ok, ouais, je vois. Pas mal, pas mal. Il y a Nicolas qui nous a rejoint. Salut Nico.
Bonsoir, bonsoir. J'aurais voulu être là encore plus tôt, mais
C'est
c'était la dernière
pas
ligne
grave.
droite là par rapport aux élèves, justement, quand on parle de projets qui vont commencer leur semaine de sprint la semaine prochaine. Il y avait pas mal d'échanges à ce niveau-là. Bonsoir à tous et bonsoir Ferdi avec
Salut.
un super projet. Franchement, je connaissais pas. Je suis très content d'avoir découvert en tout cas ce projet. J'ai hâte qu'on puisse échanger là-dessus.
Merci.
Alors, je vais essayer de faire un petit résumé rapide de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. En fait, on a vraiment attaqué qu'un seul aspect pour le moment du projet, c'est en fait comment ça marche technique, conceptuellement et techniquement. Donc, conceptuellement, c'est une application qui permet de faire des subscriptions, donc voilà, de faire des paiements récurrents en crypto. Et techniquement, comment ça marche? Donc, tu as quelqu'un que, par exemple, toi ou moi, qui crée un truc, une page sur l'application et qui dit, voilà, je propose tel service pour tant par mois. Et les personnes qui veulent se souscrire à ce service-là, ils proposent, donc ils acceptent ils approuvent, ils font approuver par le contrat. Putain, la terminologie, je suis vraiment une merde. C'est une catastrophe. Il faut approuver par le contrat. Bon, bref, ils autorisent le contrat à prendre par exemple 10 $ par mois pendant 12 mois. Et ça fait 120. Donc, ils approuvent pour 120, mais le contrat va prendre que effectivement 10 chaque mois. Et en gros, tu peux révoquer quand tu veux. L'idée de mettre une durée, c'est pour dire un peu, bah, en fait, qu'est-ce que t'autorise le contrat à faire ultimement, mais sinon l'argent n'est pas prélevé au départ. C'est seulement les 10 $ par mois qui sont prélevés sur ton compte. C'est juste le montant que tu approuves, c'est juste une manière de la confiance que tu accordes au contrat quelque part. Ou alors juste la durée de l'abonnement, si jamais tu ne veux pas regarder tous les jours, tu vois. Voilà.
Bien résumé.
Ah, merci.
Alors, j'ai vu aussi que ça sera multi-chain en fait par défaut, puisque j'ai vu qu'il y avait de mémoire 4 ou 5 blockchains concernées.
De base, on voulait déployer sur tous les chaînes EVM, Avalanche, Polygon, les Layer 2 aussi, Arbitrum, Optimism et la BSC aussi. Mais là, on va déployer que sur trois blockchains pour commencer, Polygon, Avalanche et la BSC pour start. Et après, bien sûr, on va intégrer tout ce qui est les Layer 2 aussi, parce que c'est moins cher, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense quand même que c'est les prioritaires, celles-ci, je pense, hein, de toute façon, au niveau adoption. D'ailleurs, j'en profite pour demander ça maintenant. C'est que des personnes qui connaissent déjà l'univers un petit peu blockchain, qui ont déjà un wallet, ou quelqu'un pourra se connecter juste avec le mail et obtenir un wallet custo, le charger en fiat après pour pouvoir obtenir bah, du coup des cryptos.
Ouais, pour l'instant, c'est vraiment purement Web3, ce qu'on a construit. Voilà, si tu D'accord. vas sur la page, tu t'es wallet. Mais l'objectif, oui, ça va être de faire une intégration avec les wallets, quoi. Permettre aux gens, s'ils n'ont pas les fonds, de directement acheter des fonds et de s'abonner, quoi. Mais pour l'instant, D'accord. c'est vraiment Web3 avec ton wallet, quoi.
En tout cas, moi, je trouve que l'interface, elle est hyper agréable. C'est, y a pas besoin de chercher midi à 14h pour savoir où cliquer. Ça, déjà, c'est vachement simple. C'est vrai, vous avez bien pensé le...
Tu étais allé sur une application, sur un exemple d'abonnement ou sur le protocole lui-même pour la création d'application?
Non, alors là, moi, je suis parti tout simplement sur le testnet sur le protocole. Ouais. Voilà, et c'est là après où je vois la... On voit tout de suite hein, créer pour créer son système donc, de subscription, la gestion donc après de ses apps. J'ai un petit peu tout parcouru. Juste de ce côté-là, côté vraiment utilisateur en surface.
Ok, cool. Après, je peux envoyer un exemple d'utilisateur final dans le, je sais pas, c'est lequel, le space. Comme ça, si les gens veulent, ils peuvent aller voir. J'envoie un lien dans le commentaire.
Ah bah vas-y, carrément.
Ça, c'est un exemple d'application où c'est ce que verra l'utilisateur final après que le créateur ait créé son application, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai montré à Nicolas. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon, déjà, bonjour à ceux qui sont arrivés. Hein. Salut, Joie, salut, Millésime, salut, La Cause, Habib, Superman, etc. Bonjour à tous. Gab, qui est là aussi, salut. Et donc, ouais, alors, il y a cet aspect technique des choses et tout. Et il y a une autre question que je me posais, parce que là, on parlait des subscriptions. Je ne sais même pas comment on dit ce mot en français. Abonnements. Abonnements. Ouais, des abonnements, il y a ça. Mais en fait, quand tu t'abonnes à un service, tu as un service en retour. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a une mécanique pour relier en fait, le service à l'abonnement? Ou est-ce que c'est... Comment ça se passe de ce côté-là?
Ça va vraiment dépendre du use case que la personne veut faire. Si je te donne un exemple, on travaille par exemple avec des mecs qui ont créé une surcouche d'application autour du protocole qui s'appelle Mubgram, M-U-B-G-R-A-M, qui permet de monétiser un canal ou un groupe Telegram juste en quelques clics avec des abonnements crypto. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une intégration de subs avec notre API. Et tous nos systèmes, quoi. Donc, eux, ils ont reconstruit tout un système où ils ont un service qui appelle nos API pour voir si un utilisateur est abonné à un canal ou pas, si un utilisateur est bien dans les règles, dans le Telegram ou pas, et le kick, s'il n'est pas bien, le rajouter, s'il a repayé. Bon, tout un système autour de Telegram avec subs. Et bah, d'un autre côté, il y a aussi un mec avec qui on a commencé par bosser il y a pas mal de temps qui veut le faire avec Discord, genre. Imaginons, tu as un serveur Discord, bah, tu veux que les mecs qui sont dans Discord, bah, ils te payent un abonnement. Et en fonction de l'abonnement, bah, ils ont lancé un salon ou non. Bah, il a commencé par le faire aussi. Et en parallèle, on bosse aussi avec un mec qui. Une entreprise qui veut faire de l'abonnement crypto. Par exemple, c'est une entreprise vraiment dans le Web3 qui a un produit un peu account abstraction qui permet aux développeurs de créer des services d'account abstraction. Bah, eux, ce qu'ils font, bah, ils ont un service de paiement un peu à la Stripe où c'est 50 dollars par mois pour un truc développeur, 100 dollars par mois pour un truc entreprise. Bah, ce qu'eux, ils font, c'est juste qu'ils redirigent l'utilisateur vers la page finale où l'utilisateur va s'abonner. L'utilisateur met son mail et après quand l'utilisateur s'abonne, bah, nous, on a un système de webhook où on leur envoie une notification que l'utilisateur s'est bien abonné. Donc, si je peux répondre à ta question, ça dépend vraiment du type de use case que la personne veut faire avec Subs. Si tu veux juste avoir un système d'abonnement sur ton website où tu ne veux pas rediriger les utilisateurs vers Subs, bah, on a aussi un package qui te permet de faire ça. Si tu ne veux pas si tu veux pas te prendre la tête, t'as pas de site web, t'as rien, tu peux juste créer une page sur l'application. Si t'as un Discord, bah tu peux utiliser notre bot Discord. Si tu veux Telegram, bah tu peux utiliser le service Telegram. Bah ça dépend vraiment de ce que veut faire le mec, quoi, tu vois.
Ok. Donc il y a une API, et puis si jamais j'ai un truc un peu complexe, je peux développer mon propre truc et communiquer avec Subs de la manière que je veux.
Ok. Wow. Okay. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, vous êtes déjà en activité par rapport à ce concept-là, mais Subs, en fait, c'est quelque chose que vous allez lancer vous-même et vous le faites déjà pour d'autres.
Ce que tu penses, tu dis quoi par activité, en mainnet, ça marche en mainnet?
En fait, ce que je veux dire, c'est que là, je vois dans Subs Protocol. Mais tu disais que vous permettez déjà à certains de proposer des services d'abonnement via Discord, etc. Donc en fait, c'est quelque chose que vous faites déjà. C'est un système que vous exploitez déjà, en fin de compte, en dehors de Subs. Ce système d'abonnement et ces prestations de services.
C'est pas nous qui faisons ces prestations de services, ça. En fait, tu peux voir Subs comme vraiment un protocole bas niveau où les autres vont venir construire des trucs par-dessus. Ça peut être aussi un truc haut niveau, par exemple pour Radio Shad, où lui, il va juste venir créer son paiement et avoir une page sur Subs. Pour lui, c'est clean, il a besoin de rien faire. Et les mecs dont je parle, tout ce qui est Discord, Telegram, tout ça, c'est des... Je vais pas dire on est en activité où on bosse pour eux, mais c'est juste on peut dire des clients de Subs ou des utilisateurs du protocole, on peut les appeler les super utilisateurs qui viennent créer leur système autour de Subs, quoi.
Et du coup, en fait...
En testnet, c'est pas encore en mainnet.
D'accord. Et par rapport, en fait, au service de Subs, en fait, qu'est-ce que qui vous ciblez, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est plus des utilisateurs type Radio Tchad, ou je vois, par exemple, dans l'exemple Netflix, des personnes qui proposeraient des services de streaming, des plus grosses boîtes, ou est-ce que vous avez déjà une première cible?
Pour l'instant, c'est vraiment, on essaie de se concentrer sur l'aspect Web3, donc les utilisateurs comme Radio Chat qui veulent avoir les créateurs de contenu, qui veulent avoir un système un peu à la Patreon, mais avec les cryptos, et aussi tout ce qui est SaaS dans Web3. Il y a pas mal d'applications dans le Web3 qui font des services d'abonnement, mais avec de l'euro qui fonctionne juste par Stripe, quoi. Donc, on essaie de les targeter aussi parce que eux, c'est un système qui peut être vraiment un game changer pour eux, quoi. Et pour l'instant, c'est que les deux-là. Mais après, comme le truc est tellement général que ça peut s'appliquer à d'autres, bah, pour l'instant, on se concentre sur ces deux-là, quoi. En tout cas, c'est dans ces deux-là qu'on a vu un tout petit peu de succès pour le moment.
Est-ce que vous avez une exigence au niveau des services proposés ou est-ce que tout profil pourra créer son système d'abonnement?
Ah, c'est vraiment open, hein. C'est le site est en ligne, le contrat est sur la blockchain, donc n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut avec le protocole, quoi.
D'accord. Donc c'est plutôt.
Est-ce qu'il y a des frais particuliers? Genre moi si j'utilise. Le service tel quel sans utiliser l'API, j'imagine que c'est il y a pas de frais, enfin, il y a des frais alors c'est ça tu, il y a des frais de il y a une commission sur une toute petite commission, ouais. Je crois quand tu m'avais dit ça c'est assez
ouais, à chaque ouais. Abonnement d'un utilisateur on prend 2% des frais, c'est-à-dire que si l'utilisateur vient il veut te payer $10 par mois, bah on va prendre 0,2 de frais, quoi.
Mais par exemple, si je suis si j'ai un projet un peu plus complexe et que je veux utiliser l'API, est-ce que moi je dois payer un supplément ou c'est la même chose?
C'est la même chose pour tout le monde.
Finalement. Ok.
Pour le moment, okay, en tout cas. C'est cool. C'est un truc qu'on pense quand
non,
on
mais
va changer parce que, bah, on a implémenté le truc pour qu'il soit gasless, c'est-à-dire l'utilisateur, quand il vient, il clique seulement sur l'approval, genre j'approuve, et puis c'est bon, tu vois, donc... Nous, derrière, bah, on fait la transaction à la place de l'utilisateur et l'utilisateur, il a juste besoin de faire une autre signature pour dire « Ok, je veux m'abonner à cette application. » Donc, il signe et nous, c'est nous qui allons faire cette transaction. Et après, bien sûr, il y a aussi le système de régulation où on va aller prélever l'utilisateur. S'il a les fonds dans son wallet, s'il n'a pas les fonds dans son wallet, bah, on doit désactiver son abonnement. Et aussi, il y a tout un système de sans frais qui permet aussi aux créateurs de rajouter d'autres paiements sans payer les frais de transaction. Donc, tous ces trucs-là, vont faire peut-être qu'on va, on va peut-être changer, du moins pour ceux qui veulent utiliser vraiment le truc en, en plus deep, quoi, pour les paiements. Mais en tout cas, c'est, pour le moment, c'est le 2%. On ne prévoit pas de changer pour l'instant.
J'avais une petite question. Franchement, ah, pardon. Non, vas-y, Chad.
Non, vas-y, vas-y. En fait, non, je disais, franchement, 2%, c'est super raisonnable. En vrai, tu regardes les services, comme je te disais la dernière fois, hein, les services comme Gumroad, Bandcamp, qui, eux, déjà prennent un pourcentage. Ensuite, ils te font passer par un tiers pour le paiement, donc PayPal ou Stripe, qui, eux, prennent un pourcentage. À la fin, tu as... T'as 10% qui sont rénovés. C'est un truc de fou. Et donc, quand tu m'as dit 2%, je me suis dit, ah, ok, ça va. C'est bon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était pas plus intéressant que ça. C'était genre...
C'est toujours intéressant. Ma question, elle était un petit peu pour revenir au commencement. C'est-à-dire que si tu veux bien nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, comment peut-être ça vous est venu au niveau même de l'équipe, comment vous êtes dimensionné, comment reprendre un petit peu de la naissance de Subs, quoi. En fait, tu pouvais nous représenter ça?
Ouais, bien sûr. Ça a vraiment commencé en juin 2022, je pense. J'avais eu un problème personnel parce que j'avais ma mère qui avait un restaurant, qui était en voyage, et je devais m'occuper du restaurant. J'ai eu un petit problème avec la banque. J'avais remarqué que la banque essayait de prélever de l'argent sur son compte, et quand il n'y avait pas comme il n'y avait pas de l'activité, il y avait pas la banque qui essayait de prélever, mais les services auxquels elle était abonnée, genre type la caisse enregistreuse ou un peu les services qui font office au restaurant, quoi. Donc quand les services essayaient de prélever de l'argent, la banque les refusait, refusait les prélèvements, et à chaque fois que ces services essayaient de reprélever, ça prenait des frais. La banque essayait de prélever des frais, le service aussi. En plus, par exemple, elle avait un abonnement chez Free ou Bouygues, si je me souviens bien. Eux, s'ils essaient de te prélever, t'as pas de l'argent, après, quand ils vont essayer de te prélever, ils ont mis 10 euros en plus. Après, quand ils vont encore essayer de te prélever, ils ont mis 20 euros en plus. Ça, c'est un truc que je connaissais pas du tout, et ça m'avait fait grave marrer à l'époque, parce que c'était un peu du non-sens, quoi. Et je les avais appelés pour savoir pourquoi ils avaient les 10 euros en plus, et ils m'ont dit c'est ce que ça leur coûte de prélever l'utilisateur. Et c'est un peu de là que m'est venue l'idée d'un truc décentralisé qui pourrait faire... qui pourrait être pas l'intermédiaire, mais qui pourrait être un peu le contraire de ça, quoi, qui va pas faire chier l'utilisateur, où l'utilisateur va pouvoir gérer son abonnement comme il veut, se partir comme il veut. Mais ça, c'était juste une idée, et je l'avais laissé parce que ça fait pas sens, c'est pas moi qui va créer ça pour Free ou pour Bouygues, quoi. Donc ça, l'idée m'était venue comme ça, après je l'ai laissé. Et après en 2022, j'étais en master, on était en cours, et un professeur nous avait parlé, il nous avait donné un projet où il voulait que les utilisateurs fassent un abonnement sur le projet, et il voulait qu'on fasse de l'abonnement pour les cryptos. Et les camarades essayaient un peu de se bouger pour faire ça, quoi, mais ils n'ont rien vu. Tout le monde était obligé de faire un smart contract qui fait de l'abonnement, et ils galéraient à le faire, genre à faire tout ce qui est du récurrent, quoi. Donc je me suis dit non, c'est mon idée, donc ça peut marcher, c'est un use case. Je l'ai encore laissé parce que je me suis dit c'est pas quelque chose c'est pas vraiment un besoin, jusqu'à ce que un jour je tombe sur Superfood, j'ai vu que c'était la référence dans Web3 pour tout ce qui est abonnement et tout, et j'ai vu que c'était pas du tout du récurrent. C'est pas du tout du récurrent, tu dois encore déposer tout à fond, quoi. J'ai essayé de chercher un service qui permet de faire ça dans crypto, et j'ai pas du tout vu ça. Un service qui permet vraiment de faire du récurrent, tu déposes tes fonds nulle part dans un smart contract, t'as tes fonds exactement comme dans le Web2, où t'as tes fonds sur ton compte en banque, où tu peux le dépenser comme tu veux, et au final t'es juste prélevé. Ça n'existait pas dans le Web3. Je me suis mis à le coder, je me suis dit ça peut être sympa comme aventure, quoi. Donc je peux dire mi-2023, J'avais commencé ça, à le coder. Et après, j'ai eu mon pote qui m'a rejoint dessus. Je lui avais parlé du projet, ça l'intéressait bien. Donc, il m'a rejoint dessus. On a commencé par bosser dessus. On a bien avancé. Et on en est là aujourd'hui.
Du coup, vous êtes. C'est toujours. Enfin, là, je voulais réagir à une chose, c'était que ça fait sens complètement, en fait, au niveau de choses de vie, malheureusement, et du système qu'on est beaucoup déjà avoir subi et nous pousser un petit peu, pour beaucoup, à cette liberté qui est proposée par la blockchain et le monde décentralisé. Donc là, ça fait partie justement des types de réponses qu'on peut apporter et des services qu'on peut proposer. Et en tout cas, vis-à-vis de l'équipe, vous êtes combien actuellement du coup?
Moi et mon co-founder, on est deux devs à bosser sur le projet depuis bientôt un an, 2 mois, 3 mois, je pense.
Vous n'avez pas chômé, c'est incroyable parce que là, quand je me rends un petit peu sur le projet, sur votre Linktree, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a un white paper quand même complet. Il y a le Jitbook qui apporte aussi beaucoup d'informations. Tout ça, ça prend du temps. Plus coder et tout. Vous êtes
Ah
que à
ouais,
deux,
ça m'a
c'est chaud.
beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ce que moi je trouve ça ouf parce que il y en a qui font moins que ça en plus de temps et avec des millions, voire des dizaines
Ah
de
oui.
millions.
Parce
Ouais.
que du coup, est-ce
Donc,
que quel est le pour le moment, vous avez travaillé sur tout le concept et au point que vous êtes là maintenant, c'est quoi pour vous est-ce qu'il y a peut-être déjà une société qui est constituée? Est-ce qu'une société va s'ouvrir en France ou pas en France? Comment c'est pour vous de ce côté-là?
Pour l'instant, on n'a pas encore de structure légale. Ouais, on n'a pas de structure légale. On réfléchit justement à le faire, si on le fait en France ou pas, si on rentre dans la loi française ou pas, parce que ça peut être un peu galère niveau régulation. On peut vite en considérer comme un système de paiement, quoi. Et ça, niveau point de vue de régulation, c'est pas du tout ça. Genre, tu donnes accès aux gens à un outil qui permet de payer en crypto, bah, leur service, bah, tu es un peu un facilitateur de paiement où ils peuvent aussi te mettre dans la case de blanchiment d'argent, quoi. Donc, on réfléchit pas mal à ça. Mais pour l'instant, je pense, clairement, je peux le dire que c'est pas la priorité, quoi. Pour l'instant, c'est la priorité, c'est de se lancer en mainnet déjà, d'avoir les premiers clients qui utilisent le projet et pouvoir se servir de ces premiers clients pour aller dire aux autres, bah, regardez, ça marche, il y a des gens qui l'utilisent, et essayer de, à partir de là, faire vraiment un plus gros truc derrière, quoi. Pourquoi pas essayer de lever des fonds et vraiment construire une équipe autour du projet, quoi.
Donc en fait, pour le moment, l'étape, c'est une sorte de proof of concept avancé, en fin de compte.
Ouais, je pense même pas c'est le concept parce qu'on a tellement mis de temps dessus que c'est presque un produit fini, quoi. Donc,
Oui, c'est pour ça que je parle d'avancé.
ouais.
Mais comme il n'y a pas encore la structure et la suite, c'est en gros un test vraiment grandeur nature, en fin de compte.
Ouais, exactement.
On va me dire que je file le projet de ouf, mais en vrai, on est tellement pas habitué en fait à ce que des gens sortent un produit avant de lever des fonds que tu sais, on est perdu un peu. On est comme genre, mais le produit il marche, genre,
En plus, dans
c'est genre,
l'objectif,
c'est
c'est
un peu
vrai
bizarre.
que c'est pas tous les jours qu'on voit ça.
Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça trop cool. Et dès que ça va être mis en place, je vais ouvrir un. Ça va être mon nouveau Patreon. Voilà. Oh. Et comment vous faites alors pour que ça parte pas en couille, qu'il n'y a pas un bug qui fait que tous les fonds vont partir en fumée, etc. Est-ce que vous avez fait des audits? C'est quoi les sécurités que vous avez mis en place?
Ah, pour l'instant, on n'a pas encore fait de l'audit parce que tu t'en doutes bien, on n'a pas du tout les fonds pour le faire. Mais le smart contract, on aime un peu dire que le truc est safe parce que de 1, on ne stocke aucun fonds, pardon, dans aucun contrat. Bah, les fonds sont dans la wallet de l'utilisateur, quoi. Et même si le protocole est hacké, l'utilisateur ne pourra pas se faire voler, bah, parce que justement toutes les fonctions de transfert qu'il y a dans le contrat vont au créateur des applications. Bah, si un utilisateur si un hacker hack le contrat pour potentiellement essayer de prélever les utilisateurs, bah, s'il essaie d'utiliser toutes nos fonctions de transfert, bah, ça va aller dans toi, dans ton wallet, quoi. Donc, je pense de ce point de vue-là, on aime dire que le protocole est très safe parce que, bah, ouais, je vais encore le dire une fois, bah, il n'y a aucun fonds stocké dans aucun contrat pour faire ça, quoi. Et la fonction qui permet, par exemple, de prélever les utilisateurs, elles sont appelables par tout le monde, mais on ne peut que l'appeler à une période X. Par exemple, si moi, je m'abonne aujourd'hui le 12 mars à Radio Shad, bah, tant que ce n'est pas le 12 avril, bah, personne ne peut me prendre mes fonds, quoi. Donc, d'ici en un mois, je me doute bien que s'il y a un truc qui se passe, on le saura, quoi. Et on a tout un système de monitoring avec, par exemple, pour ceux qui sont devs parmi vous, il y a OpenZeppelin qui a un très bon outil qui s'appelle Defender. Il permet un peu de monitorer le smart contract, de faire des actions en fonction de ce qui se passe sur le contrat. Et de, ouais. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce côté-là, quoi.
Et alors du coup pour rebondir un peu sur le thème qu'a lancé Nicolas, c'est quoi donc vous avez commencé cette aventure bah t'as commencé avec un pote à toi qui t'a rejoint, c'était quoi les plus gros challenges que t'as eu tout seul et puis à deux?
Tout seul, je peux dire c'est je pense tout seul, je vais pas dire c'est plus facile, mais t'as pas trop l'impression de travailler. Un peu quand même. Je lançais le projet tout seul. En vrai, si j'étais dev, donc c'est plus facile pour moi. Donc j'ai commencé par le développer tous les soirs, tous les week-ends, je me mets dessus, je développe. J'ai pas trop eu de challenge de ce côté-là. Après, mon cofondateur m'a vite rejoint, donc quand il m'a rejoint, c'est plus l'aspect humain, c'était bien. Je pense que je peux dire que j'ai trouvé un mec qui me ressemble, qui a la même mentalité que moi, qui me comprend, je le comprends. Donc, on n'a eu aucun problème depuis quasiment un an et demi, deux ans qu'on bosse ensemble. Donc, tout a bien marché, quoi. Le seul challenge qu'on a eu, c'est que nous, on est dev, tu vois. Et quand j'ai eu l'idée du projet, bah, j'ai commencé par le coder. Bah, au lieu de commencer peut-être par en parler, voir si les gens étaient intéressés avant de le coder. Ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire parce que bah, si t'as une idée de projet, c'est pas de le créer, quoi. C'est d'en parler, même si les gens peuvent voler ton idée, bah,
c'est ça le truc, tu vois, genre
personne va te voler ton idée, si toi c'est la peur, il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà eu dans le monde. On est plus de 8 milliards, donc il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà eu. Donc essaie d'en parler, voir si c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Et si tu commences à avoir de l'attraction, ok, ah ouais, j'ai déjà un client qui peut potentiellement l'utiliser, ah ouais, lui il peut l'utiliser, ah ouais, ok. Bah, tu te mets sur ça, tu développes un MVP, tu l'envoies au gars et il l'utilise, quoi. Nous, bah, l'erreur qu'on a fait, bah, on est dev, on ne s'y connaît pas trop en marketing, en produit, tout ça. Bah, on ne s'y connaissait pas, je peux dire, parce que maintenant, ça commence à être bien. Donc, on s'est mis à développer, on a développé les contrats, on a développé le front, on a développé tous les systèmes d'API, tout. Et après, bah, on s'est vite confronté à un mur, bah, qui était de vente, quoi. Et on ne savait pas vendre. Donc, on a passé quasiment 6-8 mois à essayer de contacter des gens, regarder, on a fait ça, on a fait ci. Ça n'a pas trop marché. Et là, on essaie une autre approche, on a essayé d'apprendre à vendre. Et je pense que ça commence un peu à marcher, si je peux dire.
Okay. C'est cool. Et genre, c'est... Comment tu fais pour travailler avec quelqu'un quand justement en plus tu as commencé à travailler dessus sérieusement, genre c'est un peu ton bébé, le projet, tout ça. Comment tu fais pour partager ce bébé avec quelqu'un d'autre comment tu fais pour ça? Et puis juste l'acte de faire ça et puis aussi comment tu répartis les tâches de sorte à ce que vous marchiez pas sur les pieds, comment vous avez fait?
Tu sais, si tu es avec quelqu'un et ça se passe, je sais pas comment l'expliquer, mais si tu le vois vite fait, si tu es une personne, vous allez durer ou pas, quoi. C'est pas, je vais pas dire c'est un peu comme une relation amoureuse, mais au début, je pense que c'est un ami qui s'avait rencontré dans notre master, on a fait un master ensemble. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, tout se passait bien, on se voyait en cours des fois, on discutait de la blockchain, de la crypto, parce que lui aussi il était dans ce milieu, donc on en parlait. Et après, bah, comme je l'ai dit, il y a un prof qui nous avait donné un projet, le projet d'abonnement que tout le monde devait faire, bah, c'est là que je lui ai expliqué le projet. Et il était bien intéressé, il m'a dit, bah, si je suis chaud, bah, lui il peut rejoindre le projet. Bah, moi j'ai vu que c'était un mec d'ETH qui pouvait m'aider sur le projet. Parce que je peux aussi dire que je sais pas que je me sentais seul, mais j'avais envie de faire grandir le projet, tu vois. Envie que quelqu'un d'autre participe au truc, envie que des gens participent au projet, envie de faire parler du projet. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, c'est intéressant. On s'est mis à bosser dessus, juste comme ça. On ne s'est rien dit, on n'a pas parlé genre de part, tu prends tant pour cent de part, tant pour cent de part. On a juste commencé par bosser sur le projet ensemble genre, et après, bon, on a déterminé tout ça, quoi.
Mais alors maintenant que...
Et comment il a fait ?
Comme vous êtes justement que là à deux, comment... quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Justement, tu parlais tout à l'heure éventuellement d'agrandir l'équipe. Comment vous voyez cette étape-là ? Vous la voyez pour vous quand ? Est-ce que vous recherchez des bras, des têtes, des mains en plus pour avancer ? Comment vous voyez ça maintenant ?
Ouais, pour avoir des bras, des mains, des têtes, il faut, je pense, surtout dans ce milieu, il faut avoir de la thune, quoi. Donc l'objectif, comment c'est fixé comme objectif, c'est de essayer de lancer le produit en mainnet, essayer d'avoir un peu de traction, genre 300-400 personnes qui utilisent le produit, et s'appuyer sur ces 300-400 personnes pour aller lever des fonds et essayer de faire grandir l'équipe. Et aussi, on a pensé à pas mal d'incubateurs en France qu'on peut rejoindre pour faire grandir le projet. Donc, on a postulé à pas mal auxquels on a été accepté, pas mal de discussions avancées. Là, récemment, il y a un accélérateur de l'association Cryptosphère. Bon, on a essayé de la rejoindre, bon, on a été pris. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Et ouais, c'est un peu ça l'objectif, quoi. Genre, avoir les premiers clients qui utilisent le produit et se servir de ces premiers clients pour dire, OK, regardez, on a un produit qui marche, on a une traction, bah, donnez-nous de l'argent, on va faire mieux, quoi.
Alors, du coup, d'ailleurs, je sais pas, sauf si je suis passé à côté, je sais pas si vous avez fait une roadmap ou si vous, en interne, vous avez une roadmap prévue avec, bah, du coup, en fait, des premières étapes. Peut-être que lorsque vous allez passer en mainnet, au bout de combien de temps vous estimez déjà devoir avoir une quantité, donc comme tu disais, 4, 5, 6 utilisateurs de la plateforme, puis passe à l'étape suivante. Comment vous avez planifié ça ?
On a un roadmap en interne, je ne sais pas sur notre site d'ailleurs, on va essayer de peut-être mettre quelques trucs. La roadmap, c'est genre, on s'était fixé comme objectif Q1 2024 d'avoir 5 clients en mainnet qui utilisent le protocole. Là, actuellement, en testnet, on discute avec quasiment 7 personnes qui sont prêtes à l'utiliser. Je pense qu'on va se lancer d'ici jeudi. Bah, il va y avoir au moins 3 qui vont l'utiliser avec nous. Et les autres, bah, qui vont l'utiliser aussi progressivement. Bon, l'étape 1, c'est ça. C'était de faire ça en 2024. Et on y est presque. J'espère et je pense qu'on va y arriver. Et la suite, dans la Q2 2024, bah, ça va être tout ce qui est essayer de faire connaître le produit le plus possible avec essayer de lever des fonds, quoi, genre voir les investisseurs et essayer d'aller le plus loin possible avec le produit. Donc Q1 2024, lancer en mainnet avec les clients, Q2 2024, faire parler du produit chez les investisseurs, essayer de lever des fonds, et Q3 2024, bah, essayer de faire grandir l'équipe avec ses fonds et être à temps plein dessus, quoi. Parce que ouais, je ne l'ai pas dit, mais là on n'est pas à temps plein sur le projet. C'est moi et mon co-founder, on a des jobs à côté, et tous les soirs, tous les week-ends, on bosse sur le projet, quoi.
D'accord. Et d'ailleurs, comment ça se passe au niveau de la plateforme, au niveau de l'interaction, si les utilisateurs ont besoin? Pour le moment, bah, vous entreprenez à taille humaine, donc forcément, si vous ciblez que 4-5 utilisateurs, ce sera gérable, mais à partir du moment où un utilisateur s'inscrit sur la plateforme, comment après il est en interaction avec vous en cas de besoin? Il y a, j'imagine, peut-être un chat interne ou...
Bon, Pour l'instant, on a, je pense, nous, comme le service est un peu une couche, on a un peu les super utilisateurs avec qui on a des groupes Telegram, des Discord avec lesquels on parle. Bah, imaginons par exemple RadioChat. Bah, RadioChat, on discute sur Twitter. S'il met en place le service et que un utilisateur veut s'abonner à RadioChat, veut lui payer genre 2 USDT tous les mois, veut lui faire des dons tous les mois et que ça ne marche pas, je pense pas que l'utilisateur va venir chez le service. Genre, quand tu essaies de payer avec Stripe sur la page d'un website et ça ne marche pas, bah, je ne pense pas que tu vas aller voir Stripe. Tu vas parler à l'application pour voir ce qui se passe et essayer de payer. Quoi, tu vois. Donc, aussi, si tu essaies de payer sur Amazon avec ta carte Visa, bah, si ça ne marche pas, tu vas pas aller au support de Visa, tu vas aller au support d'Amazon. Donc, je pense que côté utilisateur final, on ne va pas avoir beaucoup trop de problèmes à gérer. Mais côté super utilisateur, les créateurs qui vont...
Oui, c'est deux gens. Ouais. C'est deux dont je parle.
Ouais. Ceux-là, bah, on a des groupes Telegram, des groupes Discord dans lesquels on parle avec eux. Quoi. Et c'est pas, genre, je ne pense pas non plus que ce n'est pas une communauté qu'il faut gérer. Donc, on essaie de s'y faire. Quoi.
D'accord, je comprends. En tout cas, c'est... Un projet, yeah. Pardon, vas-y, chat.
Oui. Non, mais en fait, je voulais juste dire qu'il y avait Magic King qui nous avait rejoint, mais il est plus en speaker, je ne sais pas pourquoi.
Oui, je le vois ici. Ah, en t'es éditeur, là. Je okay. Le vois.
Ah. Ça va?
Je crois qu'il il est pas cool, il est en auditeur encore, il n'a pas la main. Il n'est pas en intervenant.
Bah, tu l'entends pas? Non. Ah, parce qu'il parle, moi je l'entends.
Moi je le vois en auditeur.
Oui, il est en auditeur chez moi aussi, mais c'est Twitter Space. C'est le truc habituel. Ouais, c'est tellement bizarre, il y a tellement de bugs souvent comme ça, je ne sais pas quoi faire avec Twitter Space. Peut-être,
ouais, je vois qu'il a quitté, il va quitter, revenir, ça va fonctionner, j'espère. Bah, Twitter en ce moment, je ne sais pas, depuis... ouais, toujours. Mais là encore pire, j'ai l'impression avec leur, de la merde. Ils ont fait les petits macarons qu'on paye là. Je vois qu'on a une tripotelle payée là déjà ce soir. Et en fait, je vois qu'ils sont en train de développer des choses, mais c'est bizarre. Hein, même au niveau de l'algo, en fait, en ce moment, j'ai des choses soumises dans sur mon mur qui m'intéressent vraiment absolument pas. C'est chiant. Hein. J'essaye de faire le tri, mais.
Ah oui. Oui, moi j'ai mute. Ça, c'est la technique imparable. Mais ça revient, il y a des trucs qui reviennent et tout. Mais c'est un petit peu moins agressif. À un moment donné, j'avais plein de comptes de merde, de vidéos absurdes de gens qui se font tuer dans la rue. Ça, j'en avais marre. Et donc, ça s'est calmé un peu parce que je les ai tous mute et tout. Et en fait, ça revient un peu. De temps en temps, j'ai un compte qui réapparaît avec une vidéo de merde. Je le mute et tout, mais ça va. Une fois que tu fais cet effort d'élaguer un peu, ça va un petit peu mieux. Mais j'imagine que c'est aussi, ça fait partie du business model maintenant, quoi. C'est genre, il faut bien qu'ils se... Je sais pas ce qui se passe avec ça, mais j'imagine que c'est les comptes qui payent pour être mis en avant, etc. Donc, c'est peut-être le prix à payer pour avoir une plateforme avec plus de liberté d'expression, même s'il y en a qui disent que c'est moins bien qu'avant. Je pense que c'est mieux.
Ouais, je sais pas, il y a du pour et du contre. Mais ah, Magic King, il est revenu en auditeur. Je sais pas si tu le vois.
Alors, ok. Voilà. Il y a des commentaires. Je vais regarder ça rapidement. Il y a Simsi qui dit ça bug souvent, ça me le fait à chaque fois. Il faut prendre l'ordinateur. De fou, il y a grave de facho. Ça sert à quoi le macaron?
Moi, la principale utilité du macaron, perso, je trouve que c'est pratique, c'est au niveau du nombre de caractères quand on fait les posts, la possibilité de modifier aussi. Et là, j'ai testé aujourd'hui aussi article. Alors, je ne crois pas qu'on puisse le faire quand on n'est pas en payant, mais on peut rédiger des articles et c'est bien fait pour le coup là.
Ah, j'ai jamais fait ça.
Regarde article quand tu publies. Dans ta liste à gauche, là, il y a article. Et j'en ai fait un, là, aujourd'hui, si tu regardes, sur un format de scam que les gens connaissent peu encore. Et du coup, bah, j'ai dit, tiens, je vois qu'il y a article. Et c'est vachement facile à faire. Et c'est bien présenté, c'est sympa, du coup.
Alors, il y a Magic qui parle depuis tout à l'heure. Moi, je t'entends, Magic King, mais genre...
Non, il est...
Mais j'ai pas l'impression que Nico est
entendu. Non, je sais pas si les autres entendent. Ah, bah, d'ailleurs,
j'entends rien du tout, perso.
Ah, voilà, ouais, moi non plus.
Ouais, je pense que c'est un bug de ouf, parce que moi, je te vois style en listener, je t'entends, mais t'es quand même en auditeur, t'es pas en speaker, c'est très étrange.
Bon, mince. Désolé, Magic, du coup.
Il est en train de parler. Ouais, bah, bisous. Il fait des bisous à tous. Voilà.
Bisous.
Bon, bah, désolé, Magic King, c'est indépendant de ma volonté. C'est Twitter qui veut pas, qui refuse notre union ce soir. Et tant pis. Mais c'est dommage. En plus, ça aurait été pas mal d'avoir son point de vue de développeur fancy. Non, mais en plus, c'est ça. Je pense qu'il a aussi un peu. Magic King, c'est aussi un peu un développeur passionné comme toi, Ferdi. Je pense que vous avez un peu le même. La même vibe, en tout cas. Ce projet-là, ça me fait délirer. Mais oui, c'est ça, je voulais revenir tout à l'heure avec quand je parlais de ton ami, tout ça. En fait, je voulais rester un tout petit peu dessus parce que, comment dire, c'est les genres de questions qu'on ne pose pas en général à des gens qui créent un projet. C'est justement comment ils interagissent avec d'autres personnes, comment ils organisent leur travail, etc. Et moi, ça me fascine parce que j'ai des gros problèmes avec ça. J'ai des gros problèmes pour m'organiser, j'ai des gros problèmes pour collaborer. C'est des trucs sur lesquels il faut que je fasse des efforts, en fait. Et donc, il y a tout le côté organisationnel de collaborer, etc., d'organiser son travail, le hiérarchiser et tout. Mais il y a aussi le côté un peu... je sais pas comment dire, je sais pas c'est quoi le mot à utiliser, mais comme je te disais un peu, quand tu travailles sur un truc où c'est ton bébé, tu vois, t'as pas trop envie de le partager.
C'est le côté humain, quoi.
Et je sais pas comment.
Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est genre, essaie pas de faire un projet avec quelqu'un avec qui tu pourrais pas passer une journée entière, quoi. Déjà, si avec la personne, vous pouvez pas genre passer une journée entière, genre, tu veux pas même passer une heure ensemble, bah, faites pas un projet ensemble, jamais vous allez aller loin. Moi, avec mon co-founder, bah, on passe du temps ensemble, on est pas mal de temps ensemble, je vais chez lui pas mal de temps, on bosse quasiment toute la journée, donc on passe nos journées ensemble sans même voir le temps passer, on est vraiment des amis, quoi, tu vois. Donc tu fais des projets avec ton pote, bah, vous êtes motivé, vous êtes à fond. Et côté organisationnel, nous, ce qu'on fait, bah, on est deux développeurs. Du coup, bah, on fait tout sur GitHub. On a une organisation sur GitHub où on a tous nos repositories, tous nos projets et tous nos tâches. On a des projets GitHub où on a quasiment tous nos tâches, genre les avancées. Et ce qu'on fait, c'est que chaque lundi, jeudi, à 19h, on fait un call. Le lundi, c'est OK, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine. Et le jeudi, c'est un point de rattrapage pour dire OK, comment est-ce qu'on a avancé. Et chaque lundi, jeudi, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a commencé par bosser sur le projet, c'est comme ça, quoi. Des fois, on le rate juste parce que, bah, y en a un qui a quelque chose à faire. Et si on le rate, bah, on le fait le mardi ou le jeudi, ou le mercredi, pardon. Mais c'est toujours deux fois dans la semaine. Même si on le rate, bah, on se planifie un autre temps pour le faire, quoi. C'est quelque chose que, je t'avoue, j'avais déjà bossé sur des projets avec d'autres potes. Ça n'a pas trop marché. Mais là... Je pense que c'est vraiment le côté humain, le côté la personne, ça compte beaucoup, parce que j'avais fait ça avec des potes. Ça ne marchait pas trop, on essayait de faire des calls, mais au final, il n'y a personne qui venait dans le call. Tout le monde était fatigué du projet, donc c'était difficile. Mais là, bah, je ne saurais pas te dire ce qui a changé, mais juste on planifie des réunions et on est tout le temps là, quoi. Genre, c'est comme si, je pense, on a le même goal. Tout le monde est aligné, nous deux, on est aligné sur le projet, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, et on essaie de faire le tout possible pour y arriver, quoi.
Mais en plus de ça, peut-être qu'aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en toi que d'autres, parce que genre, cette discussion, justement, tout à l'heure, Nicolas le mentionnait, genre, par rapport à la rémunération dans le futur, etc., c'est peut-être De ce fait-là, c'est un truc, une conversation que vous n'avez pas forcément eue et que, en fait, vous avez juste un objectif qui est réaliser ce projet et puis vous le faites et puis c'est tout. Il n'y a pas il ne se dit pas à chaque moment il va me niquer.
Il n'y a pas de rémunération. Tous les deux, on sait qu'on n'a pas de thune, on ne peut pas se payer. Le projet lui a plu. Vas-y, on bosse sur ça. On commence par bosser sur ça. Tous les soirs, on s'y met. Tous les lundis, jeudi, on fait des calls. On bosse. On s'est fixé des parts, genre, ok, j'ai tant, t'as tant, et on est dessus, mais pour l'instant, ça vaut rien. Mais on est content avec et on bosse. C'est plus la vision, il faut vraiment que la personne soit alignée sur la vision du projet que la récompense qu'il a à avoir, quoi. Il faut vraiment trouver la personne qui aime le projet, qui prend le projet comme le sien. Sinon, c'est quelqu'un qui va commencer avec toi au début. Peut-être il sera motivé, il va commencer par taffer avec toi sur le projet. Après, vas-y. Surtout quand tu n'as pas la récompense derrière, faire un projet dans lequel ce n'est pas le tien, c'est très difficile pour les autres, mine de rien. Donc, il faut vraiment trouver la personne parfaite qui te comprend bien, qui est dans ton milieu et qui avec qui tout passe bien, quoi. Après, il y a toujours tu peux toujours faire des tests, hein. Ça rappelle les gens, t'es un mec, il te plaît bien, tu veux faire des choses avec lui, tu lui fais une proposition, ok, viens, on bosse sur le projet, si tout se passe bien, ok, on se partage les choses, ça peut marcher aussi. Juste faire un test, ok, viens, on bosse sur ça. Au final, si ça va bien, ok, ça a bien marché. Si ça va pas bien, ok, on se sépare, ça a pas marché.
Tu fais des tests, genre, vous travaillez dans la même pièce, d'un coup, tu fais tomber une tasse de café pour voir comment il va réagir. tu sais que j'ai une ex qui avait fait ça. On avait commencé à sortir ensemble et elle avait fait exprès de renverser de l'eau sur moi pour savoir comment j'allais réagir.
Ah ouais, genre, à ce niveau-là.
ça m'a fait marrer. Je trouvais ça cute, en fait.
Je crois marrant. Plutôt que t'as pas bien compris, c'était pour que tu te déshabilles, mais bon.
Ah, mais j'étais déjà déshabillé. C'était de l'eau froide, tu sais, genre... c'était smart. Je trouve ça intéressant.
En tout cas, pour revenir...
C'est un mec, le mec qui part dans la rage et tout, tu vois.
Ah bah oui, tu m'étonnes. Et pour revenir au projet, Ferdi, du coup, tu... Est-ce que y a le projet, tu as dit que tu penses le mettre en mainnet déjà jeudi?
Ouais, jeudi, ça va être pour les bêta-testeurs, ouais, tous ceux qui sont intéressés par l'utiliser au plus vite possible, on va leur donner assez de l'utiliser, quoi.
Alors, est-ce que tu as peut-être un lien, quelque chose à partager en commentaire du space, peut-être?
Ouais, ça va être sur... En vrai, le lien, ça va rester le même, mais c'est pas encore live, je sais pas si je le mets ou pas.
Après, faut peut-être que les personnes te follow.
Ouais.
Le conseil, c'est quoi? Qu'on te follow et tu vas poster sur ton mur?
Ouais, je poste d'habitude sur le mur aussi, mais follow la page du projet, ce serait pas mal sur Twitter. J'envoie les informations du projet.
Indique-la, voilà.
Attends, je le fais de suite.
Alors, c'est ça, oui. Et en parlant de ça, tu avais dit un petit peu plus tôt que vous aviez péché au niveau de tout ce qui est marketing et tout. Et effectivement, quand je présentais le projet à Nico en off, il m'a dit « Mais comment ils vont s'en sortir avec leurs comptes sociaux qui sont assez bas pour l'instant ? Il n'y a pas beaucoup de monde qui vous suit. » C'est quoi les efforts que vous avez déployés pour ça jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans un futur proche ou moins proche pour le développement j'imagine que d'abord vous allez vous focus sur le lancement et tout et faire de sorte à ce que ça coule et ensuite aller un petit peu vers le marketing. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait s'en occuper ou ce genre de truc?
Ouais, pour l'instant, on essaie de trouver des gens qui pourront gérer toute la partie communication du projet, c'est-à-dire Twitter, LinkedIn, et peut-être aussi une commune sur Telegram ou peut-être Discord. Mais je t'avoue, comme de 1, on a fait genre 2-3 entretiens avec des gars qui aimaient bien le projet. Bah, le problème, c'est qu'eux, ils voulaient bah, de la rémunération. Et nous, on n'a clairement pas les fonds pour rémunérer quelqu'un sur le projet actuellement. Donc, c'est toujours un frein pour nous. Donc, après, on a essayé de discuter avec des gars qui étaient vraiment intéressés par le projet, mais plutôt sur le long terme. Ok, je veux rejoindre le projet. Qu'est-ce que vous me donnez? Mais eux, la plupart étaient trop gourmands, genre, ok. Je m'occupe de la partie communication, je prends 20-30%, bah frère, laisse tomber. Et là,
20-30% d'équity?
ouais, genre, à quel point, bah,
Ouais, c'est chaud.
ouais, donc ça n'a pas marché. Là, on continue encore à discuter avec deux, trois personnes qui sont encore intéressées par le projet, à voir ce qu'on leur propose. Là, on essaie un peu d'essayer de payer, genre, le minimum qu'on peut, quoi, tu vois. Pour tout ce qui est la partie communication et potentiellement aussi des parts dans le projet. Et d'ailleurs, je profite, il y a des gens dans le space ici qui sont des community managers ou qui savent gérer des communs. Bah, nous, on est ouvert à avoir du monde qui veut travailler sur nous, qui veut travailler sur le projet avec nous, à s'occuper de toute la partie communication parce que c'est quelque chose que nous, on a voulu faire, mais qu'on n'a pas du tout eu le temps de faire le compte Twitter, quand l'idée on l'a créé, on a essayé de poster dessus, mais ça n'a pas été trop ça, c'est pas notre fort, donc on espère trouver quelqu'un dessus, quoi.
Bon, en tout cas, bah, le message, du coup, est passé. J'ai pas vu si tu as posté en dessous, en commentaire, les
Ouais,
éléments pour vous suivre. Oui.
je suis en train.
Ouais, je l'ai. Les perturber avec mes questions. Bon, en tout cas, les gens, pendant qu'il fait tout ça, n'hésitez pas hein, à follow évidemment ce qu'il fait, ça va vous intéresser. Et puis, de toute façon, vous allez en entendre parler déjà parce que je vais l'utiliser clairement. Et puis, voilà. J'espère que vous allez entendre parler en bien, pas en mal. Genre, pas en... Il y a eu un hack, machin. Non, mais ça m'a l'air vraiment, ça m'a vraiment cool comme projet. C'est vraiment intéressant. Puis, comme disait Nico, quand je lui ai proposé qu'on fasse l'émission là-dessus ce soir, c'est quand même assez rare d'avoir cette configuration-là, des types qui commencent genre vraiment à partir de rien et qui font tout leur truc et qui sortent actuellement un produit sans lever de fonds, quoi que ce soit. On a toujours tendance à penser à un trajet. Un trajet un peu plus classique, crypto, machin, tu lèves des fonds, ensuite tu fais ton white paper, tu crées la bonne communauté, etc. Et ensuite, tu commences à développer. Et on a un peu trop l'habitude de ce bullshit-là. Et là, c'est cool qu'on a un vrai projet avec des vrais humains, avec un vrai produit. voilà, j'ai juste à
Il y a un
dire
avantage,
ce que tu en penses,
il y a
Nico.
un avantage aussi qu'a soulevé Ferdi, c'est que je l'ai déjà connu sur d'autres projets. Malheureusement, quand on c'est toujours un peu le chien qui se mord la queue, parce que quand on parle de son projet bien en avance, on crée une hype autour, etc. C'est une chose, mais selon le timing, malheureusement, on peut se retrouver avec des copies du projet, avec des gens qui récupèrent l'idée du projet avec plus de moyens, plus de ressources. De manière générale, et qui déploie avant toi, et tu te retrouves entre guillemets à avoir innové et arriver officiellement après l'autre, alors que bah, tu étais déjà là avant et c'est très courant. Donc, quelque part, ça peut être perçu comme un désavantage de démarrer de cette façon, mais c'est quand même une sécurité aussi pour eux. Ils sont là et maintenant c'est au produit de faire un petit peu aussi son chemin. Et après, bien sûr, il faut créer la communauté. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il faut créer une traction autour. Mais au moins déjà, les premiers jalons, sont là quand même. Donc, c'est une façon de faire, quoi.
Ouais, il y a plusieurs façons, donc à chacun de trouver sa voie, je peux dire.
Après, il y a une ressource
Ouais.
importante, hein, la ressource clé d'un projet comme ça, malgré tout, hein. D'un côté, on peut avoir les meilleures idées, mais on sait si on a côté vraiment dev, qu'on n'a pas d'équipe ou qu'il faut là aller payer justement les devs pour faire ça. C'est du boulot, hein, tu le sais, ça fait longtemps que tu travailles dessus. Et ça c'est une grosse partie du budget quand même. Donc
Ouais,
en tout cas,
clairement.
voilà, ça c'est déjà un avantage.
clairement, clairement.
C'est marrant parce que je me suis fait un sketch dans ma tête où j'étais en train de... Je me revoyais en train de dire ce que j'étais en train de dire, genre « Ouais, ça c'est bien, c'est un bon projet fait à la main, avec du labeur et de la sueur et des larmes et tout. » Et puis je t'imaginais toi, Ferdi, de l'autre côté, genre j'étais en train d'écouter ça, en train de pleurer avec des ampoules sur les doigts, avec des posters sur tes murs. Déjà, j'aimerais bien... avec des gens qui lèvent de l'argent...
Je vois que t'as l'esprit fertile. Ah putain.
Non mais ouais, c'est bien, mais c'est cool. Mais en tout cas, bah, je te souhaite personnellement, je te souhaite vraiment du succès. Et puis, je sais pas si j'ai pas vraiment d'autres questions et tout. Je sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui veulent poser des questions, dire des choses, partager leur expérience, poser des questions à Ferdi ou à Nico. Sur comment créer son projet, je sais pas.
J'ai aussi envoyé les informations dans le commentaire. Donc.
Oui, yeah, j'ai vu Twitter, website, Whitepaper et tout. Bah, en fait, tu as le Linktree aussi. Hein.
Ah ouais. J'aurais dû partager ça.
T'as vu, je connais le projet quand même. Après, je connais même les liens.
Oh là là, je me suis pris la tête à réécrire toi, donc il y avait juste le Linktree à partager.
Bah en tout cas, ouais, moi aussi, salut. Je te souhaite bon courage. Ah, salut Wanda. T'as ton micro qui est coupé.
Est-ce que... Ouais.
Ouais, bonsoir. Oui, ça bug systématiquement depuis mon tel. Alors, moi, je suis en train de perdre de la cuisine, mais j'avais une petite question à Ferdi parce que je suis partie sur ton profil et j'ai cliqué sur le lien, je pense, qui correspond à ton projet. Est-ce que juste tu peux me le pitcher en 30 secondes parce que je suis arrivée après avec toutes mes excuses. En fait,
ouais, pas de problème.
Ça répond à quel problème ? Ça sert à quoi ?
Ok, pour résumer vite fait, CEPS, c'est un protocole qui permet de faire des paiements récurrents sur la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des paiements récurrents sur la blockchain parce que tu dois signer, tu dois faire toi-même tes transactions. Donc, on essaie de régler ce problème-là, permettre aux gens de faire des paiements récurrents parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, notre vie, c'est un peu devenu du récurrent, que ce soit genre nos loyers, nos abonnements Netflix ou je sais pas, Basic Fit, genre on a plein de, je pense la plupart ici, si ce n'est tout le monde, a un service qu'il paye tous les mois ou quasiment tous les X périodes, quoi. Donc on a vu que ça c'était un problème avec
l'équivalent d'un prélèvement, c'est ça
tu dis?
Tu voudrais dire que ce serait l'équivalent d'un prélèvement ou que d'un abonnement. Mais par exemple, tu prends un abonnement un mois, deux mois, tu vas
arrêter si
deux c'est... mois. Sauf que tu, au lieu de te mettre...
Je ne sais pas si c'est moi, mais tu coupes énormément.
Tu le paramètres sans code, c'est ça?
Ouais, exactement.
Excuse-moi, tu as dit je t'entends pas, ça coupe.
T'inquiète. Ouais, tu peux le voir comme ça, tu peux le voir comme un système de paiement, d'abonnement que tu fais sans code. Donc, tu peux venir mettre en place un système d'abonnement avec des cryptos et les gens vont venir s'abonner à ton service. Ou tu peux aussi le voir comme, juste en Radio Chat, par exemple, le voir comme un Patreon où les gens vont lui faire des donations, quoi. Donc, ça a plein de use cases différents, mais en tout cas, le mot à retenir, c'est ça permet de faire de paiements récurrents et surtout avec n'importe quelle crypto, quoi. Donc, c'est-à-dire, imaginons que tu es par exemple une DAO, tu es un service, tu as un token, bah, tu peux aussi donner du use case à ce token-là en créant un paiement avec, un paiement récurrent avec. Ah, il y a une chose que je n'ai pas dit, tu peux aussi créer un paiement en une fois avec ton token. Donc, ça, c'est un use case qui peut être pas mal. Genre, tous les tokens qui existent sur une chaîne donnée, bah, on peut créer un paiement avec sur CEPS. Bah, si tu as ta DAO, tu as un token, tu cherches un use case à ton token, bah, tu peux créer un paiement avec ton token. Les gens vont venir payer avec ton token et ça, tu n'as pas besoin de coder pour le faire. Ou si tu as un service où tu veux que les gens te payent, que ce soit du récurrent en une fois, bah, tu peux le faire aussi. Donc, c'est vraiment ça si je peux vite fait débriefer le projet. Je ne sais pas si j'ai été assez clair pour toi.
D'accord, ok. Je... Donc, en fait, tu es omnichain, un petit peu comme tu étais omni-blockchain.
Ouais, c'est sûr, on est sur tous les chaînes EVM, tout ce qui est Ethereum, EVM pour l'instant, et Tezos aussi, mais pour les Tezos, c'est juste les contrats qu'on a fait, on n'a pas encore fait tout ce qui est la partie visuelle.
D'accord. Ok, ben merci, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai bien, bien mieux compris maintenant. Et je te souhaite bonne chance.
De rien, merci pour ta question.
Ben, merci Honda, même si j'avais du mal avant. Je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais ça a coupé de ouf. Donc j'avais genre un mot sur 10 de toi, mais j'ai entendu la réponse. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool le truc avec le token. C'est pas mal. Donc ça c'est en natif. C'est-à-dire, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un truc dans les menus, etc., qui permet de sélectionner, de rajouter son token, ou c'est un truc avec
Ah
l'API
non, c'est sûr.
comment ça
Si tu vas
fonctionne?
sur le front, tu cliques sur créer une application, bah, tu peux rajouter ton propre token, tu copies-colles l'adresse de ton token et tu peux créer un paiement avec. Aussi simple que ça.
Ah ouais, c'est cool ça. Bon, bah écoute, moi je suis super emballé. Bravo, bravo pour ce projet. Et j'espère que ceux qui ont envie de créer un projet, qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à se lancer, bah, que ça va leur donner du courage pour commencer. Parce que ça part de là en fait. Faut juste
Ouais,
commencer.
faut juste commencer, c'est l'essentiel. Si tu commences pas, au moins tu commences. Et je pense, la plupart du temps, quand tu commences, t'as pas envie de t'arrêter. Donc, si tu commences, c'est sûr, tu vas au moins le faire, quoi. Donc, essayez de commencer. Si vous avez un projet, des idées qui vous trottent par la tête, juste faites le minimum pour le commencer. Si ce n'est juste peut-être créer le Twitter du projet ou juste créer un compte LinkedIn pour le projet pour. Si c'est une fois par semaine, essayez de parler du projet, même si vous n'avez aucun développement derrière. Donc, essayez juste de faire le premier pas, quoi. C'est l'essentiel.
Ça m'amène à une expression de mémoire, je crois que c'était l'abbé Pierre. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'était resté en tête, parce que très souvent on a la tendance à vouloir que tout soit absolument parfait, mais
Exactement.
ce n'est pas nécessaire pour commencer quelque chose de bien. Ouais. C'était un petit peu peut-être l'un des mots de conclusion, mais je trouve qu'il est. C'est marquant. En tout cas, bravo, hein, Ferdi,
Eh ben.
que tout aille pour le mieux. Et puis surtout, j'espère que tu vas communiquer sur le déploiement, la sortie, et puis on attend la suite.
Merci beaucoup, merci. Merci à tous de
Merci à
m'avoir
toi.
écouté ce soir. À bientôt, j'espère.
Ouais, reviens quand tu veux. Puis merci d'être passé, c'était cool. Et merci Nico pour m'avoir accompagné pour cette émission. Et puis demain, on se voit à 22h, comme tous les jours, en fait, du dimanche au jeudi. Et demain, ce sera une émission spéciale. On va parler de Bitcoin et de l'or. Donc, ça va être une soirée un peu finance décentralisée, mais ça ne va pas être la DeFi à proprement parler. On va parler de l'or, en fait. C'est ça, adosser des cryptos à l'or, le marché de l'or. Etc. Et on va faire. C'est la première fois qu'on fait une émission sur ce sujet-là, donc c'est cool en fait. Et on va voir un spécialiste du domaine, donc Alexis Beuglin, je crois, qui était. Ok, c'est quelqu'un qui a un projet justement de. Bon, il adosse crypto. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc, mais c'est un spécialiste du sujet. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je sais d'avance que ça va être cool. Donc, n'hésitez pas à venir. Et c'est ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en vrai. Merci à tous, bonne soirée, dormez bien, et puis à demain.
Et
Et puis il faut que je trouve la musique
Chad,
de...
attends,
Ouais.
attends. J'aimerais faire un petit hors-sujet pour revenir juste sur un truc qui est hors-sujet, encore une fois. C'est par rapport à
Ouais.
l'IA. Il y a des utilisateurs, si vous
Ouais.
faites le pouce, il y a des utilisateurs là, de GPT qui sont collants sur le space ou pas? Si vous faites un pouce ou...
Ouais,
Ouais,
j'ai
ah bah Ferdi,
moi.
bah voilà, t'as pas eu besoin. Non, parce qu'en fait, je voulais juste aborder ça vite fait parce que il y en a beaucoup qui galèrent en ce moment pour lancer des conversations avec GPT et une petite manipulation à faire pour ceux qui galèrent avec ça. Donc, si jamais c'est le cas, je vous donne l'astuce. C'est sauf que chat, tu galères ou non? T'as pas de soucis?
J'utilise plus ChatGPT, j'utilise Claude uniquement. Mais je prends quand même mon CGI.
Bah, écoute, si jamais, en fait, lorsque vous initiez une conversation actuellement, ça tourne sans fin et la conversation ne commence pas, en fait, il suffit d'aller tout en bas, à gauche, dans vos paramètres, et puis aller donc dans les langues de préférence et choisir la langue automatique. Ou partir sur l'anglais par défaut si c'est pas le cas pour vous, parce qu'il y a un souci à ce niveau-là et c'est la seule petite astuce qui débloque l'outil actuellement. Sinon, vous avez une conversation qui démarre jamais. Donc voilà, on n'est pas beaucoup ce soir, mais s'il y en a qui galèrent avec ça, la solution elle est là.
Merci.
Ok, merci beaucoup. Et Wanda qui veut prendre la parole, on termine l'émission vraiment là. Je veux pas trop caler, ça fait un peu le videur. Non mais mais vraiment rapide. Hein. Je te donne la parole. Et après on se quitte.
Wanda a coupé, coupé le micro du coup.
Bon on se dit à demain.
Wanda, si c'est une question par rapport à l'IA, tu peux MP directement Wanda si tu veux. Si c'est ça. Hein. Si c'est pas ça, voilà. Sinon, tu peux MP comme tu veux, pas de problème. En tout cas, merci à tous.
Merci à tous et puis bonne soirée.
Bonne soirée, à plus.